Radula 88.8 FM.
Caroline et Christophe, bonjour.
Bonjour Nelly.
Alors nous sommes pleins aujourd'hui, on a compté tout à l'heure, nous sommes 19 à Euphonia. Le mercredi après-midi, c'est l'atelier Radiola qui se réunit, un atelier composé de plein de personnes usagées de la psychiatrie. De façon assez régulière, on organise des moments de rencontre et de questionnement collectif. Et là, nous recevons donc aujourd'hui le réseau d'entraide des entendeurs de voix, le REV, R-E-E-V. Et c'est tous les deux, Christophe et Caroline, qui avaient accepté de venir répondre à nos questions. Alors, on les a préparées mercredi dernier. Et je crois que c'est toi, Manu, qui va commencer avec la première question. Et c'est toi, Christophe, qui va y répondre.
C'est quoi le réseau d'entente de voix et à quoi ça sert ?
Donc, Manu est pour tout le monde. En fait, ça commence par une histoire. C'est un psychologue qui s'intéressait à tout ce qui était hallucination auditive. Et ce psychologue, en fait, a fait une annonce sur le journal invitant des gens qui avaient des hallucinations auditives, parce qu'on parlait de ça à cette époque, plutôt d'hallucinations auditives, de venir un jour précis à un lieu pour pouvoir en parler. Et il s'est retrouvé que beaucoup de monde sont venus à ce rendez-vous et beaucoup de monde, en fait, n'avait pas du tout eu affaire à la psychiatrie. Beaucoup de gens qui avaient des hallucinations auditives vivaient avec sans avoir eu une étiquette diagnostique. Et donc, en fait, il s'est dit, là, il se passe quelque chose. Moi, je suis psychologue et moi, on m'a toujours appris que entendre des voix, ou plutôt, à l'époque, c'était les hallucinations auditives, étaient vraiment un critère diagnostique. Et c'était révélateur d'une maladie mentale sévère. Et donc, il s'est dit, s'il y a des gens qui vivent avec, sans avoir fait part de la psychiatrie, et qu'en plus, je peux les réunir ensemble pour qu'ils m'expliquent comment ils font pour vivre avec, quelles stratégies ils mettent en place, tout ça, ça peut être super. Et ça a donné naissance, en fait, à un mouvement qui est international. C'est Intervoices, en fait, qui est le réseau d'entendeurs de voix, mais à l'échelle mondiale. Et de là, après, c'est décliné dans chaque pays des petits réseaux, comme nous, le réseau d'entendeurs de voix français, en France. Voilà.
Est-ce que je peux te demander de te présenter, Christophe ?
Je m'appelle Christophe, je suis médiateur de santé père en santé mentale sur le programme Un chez soi d'abord, qui est un programme qui a été expérimental et maintenant qui est pérennisé, où on s'occupe de personnes qui ont connu le sans-abrisme avec des troubles psychiatriques sévères. Le but est de rétablir les gens à travers le logement. Et en même temps, j'ai fait plusieurs projets, dont être avec Caroline, facilitateur d'un groupe d'entendeurs de voix sur Marseille.
Caroline, est-ce qu'on peut te demander aussi de te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Caroline. Je suis médiatrice de santé père au sein de l'équipe Mars. Donc l'équipe Mars, pour vous expliquer en deux mots, c'est une EMPP, une équipe mobile pôle psychiatrie de rue. Donc nous travaillons avec des personnes qui sont des personnes dans la rue, hein, des sans-abri, et qui présentent des troubles psychiques sévères. Et donc l'équipe Mars organise des maraudes dans les quartiers de Marseille pour aller à la recherche de ces personnes-là qui présentent ces critères-là et pour les orienter vers le droit commun, les orienter vers une prise en charge médicale, les orienter vers des droits sociaux dans lesquels ils ont droit et donc les sortir de ce carcan de la rue pour qu'ils puissent mieux s'insérer dans la société et avoir aussi une place dans cette société. Voilà.
Et vous êtes donc tous les deux médiateurs dans le réseau d'entente de voix. Dans la question qu'a posée Manu, il y avait à quoi servent ces espaces d'associations d'entendeurs de voix? Elles ont une fonction particulière?
Alors, ces associations permettent à des personnes déjà de se réunir, d'être un collectif de personnes avec un point commun qui est d'entendre des voix. Et c'est avant tout donc des groupes, ce qu'on appelle des groupes autosupport, comme le groupe des alcooliques anonymes. Hein, donc on se base sur ce principe-là. Donc c'est des personnes donc qui se regroupent donc autour d'un thème en commun qu'elles entendent de voix. Et il s'agit, ça sert à quoi? Ça sert à faire un partage d'expérience entre nous. Hein, partager ce qu'on vit au quotidien avec les voix, et comme le dit très bien Christophe, c'est vivre avec ces voix, comment on gère ces voix, et ça permet aux personnes de ne plus se sentir seules face à ça. Le fait de voir et d'entendre que d'autres personnes vivent le même phénomène d'entendre de voix. Donc voilà, ne pas se retrouver seule, parce qu'on sait que les gens qui entendent des voix sont isolés. Hein, socialement, il y a des gens qui n'ont pas d'amis, qui sont vraiment isolés de la société. Et je pense que le fait de se regrouper entre nous, parce que c'est un groupe fermé, attention, nous n'acceptons pas des non-entendeurs. Hein, nous sommes vraiment dans le concept de... Nous sommes tous des entendeurs de voix, nous avons tous une expérience de ce phénomène. Et du coup, ce partage d'expérience, le fait d'en parler, c'est aussi une manière de casser le tabou et le rejet de la personne. Voilà.
Quelles sont les voix entendues? De quel type? Et qu'est-ce qu'elles disent?
Alors, en fait, juste une petite précision, c'est un peu sémantique, mais j'ai bien précisé tout à l'heure, en fait, on parlait plus d'hallucinations auditives. On peut même pousser le langage médical et dire hallucinations acoustico-verbales. On passe de ces termes-là à l'entente de voix. Et ça, ça a du sens, c'est très important. Parce qu'en fait, on déstigmatise du coup. D'un langage médical, on passe à un langage commun. D'une exclusion à la maladie, on passe à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un passage, tout simplement, entre vivre avec une maladie et être un citoyen lambda à part entière. Ce sont deux choses qui sont... Et c'est vraiment la volonté d'un groupe d'entendeurs de voix. C'est vraiment déstigmatiser ce phénomène. Et donc, on passe par le langage, si on veut déstigmatiser quelque chose. Et pour répondre un peu à ta question, en fait, les voix, c'est infini. Il n'y a pas, en fait... Il n'y a pas un type de voix particulier. Il peut y en avoir. Moi, je vois entre ce que j'ai vécu personnellement et ce que mes pères ont pu vivre, c'est vraiment très diversifié. Elles peuvent être méchantes, elles peuvent être gentilles, elles peuvent vous rendre heureux, malheureux. C'est très diversifié. Il y a des personnes qui vont entendre juste des sons. Des personnes qui vont entendre des bébés. D'autres personnes qui vont entendre des voix étrangères ou des voix familières et qui auront des thématiques très différentes et des tonalités très différentes aussi.
Qu'est-ce qu'elles disent les voix? Donc c'est vrai que c'est singulier, chaque personne a son type de voix. Là où il faut commencer à s'inquiéter par rapport à ce qu'on peut entendre avec les voix, c'est quand les voix nous renvoient des ordres, des menaces. Il y a des entendeurs de voix qui, malheureusement, se sont défenestrés parce qu'ils ont entendu une voix qui leur disait « saute », alors ils sont sautés. Donc, il y a, comme l'a dit Christophe, il y a des bonnes voix, gentilles, qui nous conseillent. Et il y a des voix beaucoup plus menaçantes. Et là, quand on a des voix menaçantes, il vaut mieux en parler et ne pas rester seul face à ça parce que ça peut devenir très dangereux pour nous et pour les autres. Voilà.
Moi, j'ai une question à Caroline et à Christophe. Comment la psychiatrie prend en compte l'entente de voix?
Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, en gros, la psychiatrie ne sait pas grand-chose sur la maladie mentale. Et en fait, les médecins, et au combien j'ai du respect pour leur travail et pour ce qu'ils font, jouent aux apprentis sorciers. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements qu'on donne pour enlever l'entente de voix sont des traitements qu'on connaît par des effets. En fait, les effets sont mesurés indirectement. En fait, on va mesurer avec le médicament, mais on n'a jamais mesuré sans le médicament. Donc, en fait, ils avancent, ils tâtonnent, la science essaye de mieux comprendre le phénomène, mieux pouvoir le traiter. Mais il y a certains médecins qui vont être plutôt, on va dire, sur une pratique assez classique, où justement, ils vont être... avec tout l'héritage de la psychiatrie. Et puis, il y a ceux qui vont se remettre en question et qui vont se dire, en fin de compte, au final, on ne sait pas tant de choses que ça. On a beaucoup de choses à apprendre et qui vont, du coup, renverser un peu ce qui se fait en psychiatrie.
Parce qu'en fait, non, cette question, parce qu'il y a 15 ans, j'étais confronté à ce problème. Parce qu'en fait, j'ai dit à la psychiatre que j'entendais des voix. Dès qu'elle a entendu ça, elle m'a dit, oh là, c'est grave, grave. Donc, mais après, elle s'est pas étalée là-dessus. Hein. Donc, ce que tu disais, Christophe, voilà, c'est que voilà, ils cherchent pas trop à comprendre, mais c'est quand même très grave comme maladie. C'est ce que j'ai compris, quoi.
C'est pas une science exacte, hein, la psychiatrie. Loin de là, il y a beaucoup de lacunes. Pour moi, un médecin qui fait son travail, c'est un médecin qui a conscience de ça et qui va travailler avec les gens, et qui va travailler sur le social, sur le relationnel, et toutes ces formes de thérapeutique, en fait, même psycho, plutôt être sur un versant psychothérapeutique qu'un versant médical. Voilà. Moi, là c'est, pour moi, elle est là, la solution. Elle est vraiment dans le social, et pas forcément dans les traitements médicamenteux. Ça peut aider, mais pas que. Et je pense que la psychiatrie a bien pris conscience de ça face aux inégalités qu'il y a. Pourquoi moi, je réponds très bien au traitement et pourquoi d'autres personnes répondent partiellement, ont beaucoup d'effets secondaires. Voilà. C'est très inégal, c'est très injuste. Et voilà, la psychiatrie, elle peut être très injuste envers les gens qui ont des problématiques de santé mentale. Mais elle peut être très juste aussi. Mais il y a un minimum, je pense, de remise en question à avoir.
Il faut savoir qu'en psychiatrie, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. C'est de l'éducation à la santé. C'est-à-dire qu'il va y avoir en psychiatrie des médecins qui vont proposer des ateliers. Ce sont des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers de psychoéducation, dont moi j'ai participé, et qui consiste en fait à donner un maximum d'informations sur la maladie. Voilà. Donc, il y a des ateliers. Il y a aussi ce qu'on appelle en psychiatrie que les jeunes internes vont commencer à utiliser, à pratiquer, c'est l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, on part du principe que le patient a aussi un savoir sur les médicaments, sur les effets secondaires, sur le phénomène d'entendeur de voix, qu'est-ce que ça fait d'entendre des voix. Donc, le patient, la personne concernée, parce que je n'aime pas dire patient usager, pour moi, ça n'a aucun sens, la personne concernée a un savoir. Et ce savoir, il va venir se coller au savoir médical, au savoir du médecin. Et quand ces deux savoirs se rencontrent, ça note un progrès énorme dans la médecine et dans la psychiatrie. Parce qu'on ne part pas du principe que le médecin sait que l'autre ne sait pas.
La question d'après, c'est Paul qui la pose.
Est-ce que ça change dans une vie ?
Oui, ça change énormément. Ça ne peut que changer. Après, ce qui est dangereux, c'est de se dire il y a l'avant, l'après. Et de se dire que j'aimerais retourner en arrière, j'aimerais redevenir ce que j'étais avant que je commence à entendre des voix. Parce qu'en fait, c'est une expérience qui vous transforme profondément. Et ça, cette expérience-là, il faut en prendre en compte. C'est pour ça qu'on parle avec Caroline de vivre avec. Et c'est une force, c'est de se dire qu'on est un individu avec une expérience à part entière. Cette expérience, c'est l'entente de voix. Et on vit avec. Et elle nous a profondément transformés. Profondément, moi, ça m'a profondément amélioré. Par exemple, avant que j'entende des voix, j'étais hyper susceptible. Et quand j'ai fait ma crise, que j'entendais beaucoup de voix, elles étaient très méchantes, très moqueuses, très insultantes. Et en fait, c'est comme si j'avais été entraîné, à un moment donné, à supporter la critique d'autrui. Et quelque part, en fait, maintenant, je ne suis plus du tout susceptible. Donc, quelque part, ça permet de s'améliorer aussi et d'avancer. Ça m'a ouvert l'esprit aussi sur la différence. Ma propre différence n'est en fait que le reflet des multiples différences que nous sommes tous ensemble ici. Voilà.
Est-ce que les voix parlent toujours dans la langue maternelle ?
En fait, c'est tout est possible. Tout est possible, en fait. Et c'est la magie du cerveau. Hein. C'est que c'est un organe qui est incroyablement complexe et qu'on a du mal à comprendre. On essaye par des théories, par des approches, mais il reste tellement encore de choses à comprendre. Et l'entente de voix, c'est très diversifié, en fait. Hein.
Est-ce que l'entente de voix peut être source d'inspiration artistique ?
Alors, tout à fait, Aïcha. Tout à fait. Quelqu'un qui entend des voix a plus cette sensibilité artistique, c'est-à-dire qu'on va être inspiré de ce qu'on entend, on va être inspiré de ce qu'on vit au quotidien avec les voix. C'est source d'inspiration, tout à fait. D'ailleurs, on connaît de grands artistes qui sont entendeurs de voix et qui ont réussi dans leur vie. Hein ? Il y a une liste de personnalités très célèbres, entendeurs de voix, hein, dont la plus connue, c'est Jeanne d'Arc. Hein ? La pauvre, elle a mal fini, mais bon. Mais il y a aussi d'autres artistes, des écrivains, des peintres qui sont entendeurs de voix. Donc, c'est... Et ces gens-là utilisent ces voix, ce phénomène, pour s'exprimer dans l'art. C'est extraordinaire.
Après, Aïcha, moi, en période de crise où j'entendais beaucoup de voix, c'est là où j'ai le plus dessiné. J'ai énormément dessiné. Ça me libérait ce que j'avais dans ma tête. Ça me faisait un bien fou, en fait. Hein. Il y avait quelque chose de très thérapeutique. Et puis, dans les personnes célèbres, il y a quand même Jack Nicholson, qui est un célèbre entendeur de voix et célèbre acteur. Ah oui.
Et qui a bien joué dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Exactement. Et moi, j'ai une question que je voudrais rajouter. C'est que dans votre groupe, si j'ai bien compris, vous recevez non seulement les entendeurs de voix, mais également toutes les autres personnes qui perçoivent des phénomènes particuliers.
Ouais, en fait, c'est ça. C'est que le groupe, c'est vraiment sur l'entente de voix. Mais on a bien pris conscience, et Rêve France, hein, notamment, le réseau d'entendeurs de voix français, qu'on ne peut pas se limiter qu'à ça. Et qu'il faut, en fait... élargir sur tout type d'hallucinations, d'autant plus que généralement elles sont couplées. Généralement, une hallucination auditive peut être couplée avec une hallucination visuelle ou tactile, gustative, olfactive. Voilà, c'est. Ouais, ouais, ouais.
Donc voilà, il y a les hallucinations acoustico-verbales, mais il y a aussi, et ça fait partie un peu des symptômes, hein, de la maladie. Des gens qui voient des choses et qui sentent aussi des choses. Voilà.
Moi, j'avais une personne que j'accompagnais, donc qui avait des fortes hallucinations auditives. que j'ai beaucoup accompagné en individuel, hein, parce que le groupe, ça ne l'intéressait pas. Et puis, ça lui faisait beaucoup de mal. Parce qu'il faut voir qu'un groupe aussi, ce n'est pas bon pour tout le monde. Et lui, dans son cas, ça ne le faisait pas, quoi. Et bon, cette personne, il se trouve qu'elle avait des... En plus de ses hallucinations auditives, elle ressentait des choses comme des décharges électriques. Donc, c'était très... Pour dire, hein, à quel point ça peut... Ça peut être violent. Hein.
Alors, moi, Christophe et Caroline, ma question, c'était surtout pour les plus jeunes. Bon, là, je sais que vous travaillez avec des adultes, mais des plus jeunes qui seraient entendeurs de voix début de l'adolescence ou même encore plus jeunes qui entendraient des voix, on pourrait penser que voilà, c'est des amis imaginaires, etc. Et passé un stade, les parents peuvent être inquiets et surtout aussi au début de l'adolescence. Est-ce que vous avez déjà rencontré des parents qui étaient inquiets parce qu'ils ne savaient pas si c'était soit lié à la crise d'adolescence, soit un caprice ou quelque chose comme ça? Parce que souvent... quand on a un problème psy dans la jeune enfance, c'est assez mal perçu, ça inquiète, etc. Est-ce que vous avez eu ces problèmes-là en étant enfant?
Alors, pendant votre enfance? Non, moi, j'ai été en tendance de voix à l'âge de 22 ans. Il faut savoir que c'est un phénomène qui se déclenche entre 15 et 25 ans. Donc, moi, je n'ai pas rencontré d'adolescents ou de jeunes enfants qui ont ce phénomène-là. Parce que ce phénomène-là, donc, pour les jeunes enfants, il y a ce qu'on appelle la pédopsychiatrie. La psychiatrie pour les jeunes enfants et les adolescents. Nous, on est plus axés sur les adultes. Hein, plus les 20 ans, plus de 25 ans. Mais c'est vrai que moi, je travaille avec des familles donc, qui ont une personne concernée par ce phénomène. Et vous ne pouvez pas savoir la détresse des familles. Pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre en CMP, centre médico-psychologique, il faut attendre 2 à 3 mois. Quand vous allez aux urgences, on vous prend pas en priorité parce que vous entendez des voix ou parce que vous avez une crise d'anxiété ou un trouble de panique, parce que vous avez entendu des choses. Donc, moi, je travaille avec des familles et j'essaie au mieux de suivre ces personnes et de soulager et de rassurer les parents qui ont des personnes qui ont ce phénomène-là. Parce que c'est vrai que la psychiatrie, elle ne prend pas en compte tout le monde. Elle ne peut pas prendre en compte tout le monde, la psychiatrie. Donc, c'est pour ça que nous, les médiateurs de santé, on est là parce qu'on est passé par là, parce qu'on a notre entourage qui est passé par là. Et c'est d'aider au mieux ces familles, ces parents, ces mères, ces pères qui ont des enfants comme ça et essayer au mieux de les soutenir et de leur dire que ça va s'arranger et toujours travailler dans la notion d'espoir.
Je voudrais rajouter quelque chose. C'est un questionnement que j'ai par rapport aux personnes mineures, plus jeunes, quoi, qui ne doivent pas se livrer si facilement sur ce sujet quand elles en sont victimes. Ouais. Et je me demandais comment on pouvait, par l'information, par les dédramatisations, la déstigmatisation, les inciter à pouvoir se livrer là-dessus.
En fait, je connais une dame que j'accompagne, tout simplement. Son fils, qui a maintenant 18-19 ans, mais à l'époque, il avait plutôt 14-15 ans, a commencé à entendre des voix. Et ça a été la panique pour lui. Et donc, je l'ai rassuré. Et je lui ai dit, mais tu sais, en fait, là, tu es en train de vivre ce que tu étais en train de vivre quand tu étais un enfant, que tu as commencé à vouloir apprendre à marcher. C'est vrai que c'est dur à vivre, c'est dur à gérer. Mais fais-moi confiance, avec le temps, tu vas les dompter et tu arriveras à vivre avec.
Est-ce qu'il y a une relation entre entendre de voix et spiritisme?
Alors, on en a parlé tout à l'heure un petit peu hors antenne. Donc oui, il y a un rapport. Hein. Certaines personnes ont un rapport particulier avec le spiritisme. C'est une croyance spirituelle que certains entendeurs de voix ont et ils revendiquent cette croyance spirituelle. ils en parlent. Donc certains vont te dire qu'ils entendent des voix d'anges, des voix qu'ils entendent Dieu. Il y en a d'autres qui vont te dire que j'entends le diable. Donc voilà, c'est un rapport à la spiritualité. Et c'est une manière aussi de donner une explication logique à ce qu'on peut entendre. Se donner une explication sur, voilà, moi j'entends ça, et elles viennent de l'au-delà. Tu vois, il y en a qui parlent avec des morts. Il y en a qui te disent, je parle avec ma grand-mère qui est décédée il y a 2-3 ans. Moi, je parle avec mon ami qui n'est plus là avec moi. Tu vois ?
En Occident, par exemple, l'entente de voix est souvent, c'est souvent en fait des voix très agressives, très négatives, des insultes, des injures, des gros mots, tout ça. Alors que dans les pays plutôt asiatiques, voire l'Afrique, entendre deux voix, ça veut plutôt dire que tu parles aux esprits.
Alors moi, la question est simple. Quand vous entendez des voix, pourquoi vous n'écrivez pas un livre ?
Parce qu'en fait, y a un livre, ça s'appelle « La voix intérieure » de Paul Baker, qui explique très bien tout ça, qui explique déjà la petite histoire que je vous ai racontée sur Intervoices, ce fameux psychologue qui s'intéressait à ce phénomène. Ça explique vraiment, vraiment tout sur l'entente de voix, donc du passage à la maladie, à l'expérience de vie, la déstigmatisation. Et voilà, c'est un très beau livre que je vous conseille.
Après, il y a des entendeurs de voix qui écrivent ce qu'ils entendent. Il y a des entendeurs de voix qui écrivent des poèmes. Moi, je connais une entendeuse de voix qui écrit des slams, qui pratique le slam, qui pratique de la musique.
Quelle est la place des gens qui souffrent dans la société ?
Je pense que si on reste dans la souffrance d'entendre des voix, je pense que la société stigmatise beaucoup les gens qui souffrent. Hein, c'est-à-dire qu'on on regroupe des personnes dans une catégorie. Donc, dans la société, on a le normal et on a la normale. Voilà. Donc, où est-ce qu'on se situe par rapport à ces deux éléments ? On ne sait pas. Donc, du coup, la société, elle est vraiment très violente. C'est violent pour... de se confronter à la société, de trouver une place dans cette société avec notre différence.
Pour moi, dans tout ce qui est l'ordre du pathologique, c'est quand, à partir du moment où ça gêne ou fait souffrir une personne. Après, les critères diagnostiques, les manuels et tout ça, moi, ça m'intéresse, mais pas du tout. Mais à partir du moment où une personne est gênée ou souffre de quelque chose, c'est là où il faut intervenir, c'est là où il faut qu'il y ait des pairs. C'est là où il faut... Et le problème, c'est est-ce que la personne souffre plus de ce qu'elle vit ou plutôt est-ce que la personne souffre du regard de la société, de ce que la société renvoie sur la personne. Moi, c'est ça, c'est que vraiment, plus je travaille dans le milieu de la psychiatrie, de la santé mentale, et plus je me rends compte de cette part du social qui est hyper importante, en fait. Et les gens qui entendent des voix sont exclus de la société, en tout cas la société occidentale.
Alors après, ça pose la question, est-ce que c'est à la société de s'adapter à la personne qui souffre, ou est-ce que c'est la personne qui souffre qui doit s'adapter à cette société-là ? En fait, elle est là la question.
Merci beaucoup à tous les deux.
Ben merci Nelly
d'être venue jusqu'à nous. Si on a besoin de vous joindre,
Il y a tous les groupes de France avec les contacts des facilitateurs sur le site de Rêve France. Voilà.
Merci.
radio-la.fr.